Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En RDC, l'opposition remporterait l'élection présidentielle face au camp du président sortant Joseph Kabila si le scrutin avait lieu ces jours-ci. C'est ce qui ressort de plusieurs sondages publiés ce vendredi par les experts étrangers à 9 mois de l'échéance électorale du 23 décembre. Des sondages effectués dans tout le pays en février 2017, août 2017, novembre 2017 et janvier-février 2018. Au total, 66% des Congolais voteraient pour des candidats d'opposition à l'élection présidentielle si elle avait lieu dimanche prochain. Par contre, seuls 6% de l'électorat voterait pour le président Kabila, qui n'a pas le droit de se représenter, et 17% pour un candidat issu de l'actuelle coalition au pouvoir. Les auteurs des sondages revendiquent une marge d'erreur de plus ou moins 3%. Et toujours en RDC, l'Ituri dans l'est du pays attend le président Joseph Kabila qui doit annoncer les modalités d'une conférence pour la paix dans cette province où les agriculteurs lindous et les éleveurs Emma s'affrontent. Depuis début février, des tueries ont fait plus de 120 morts d'après un décompte de l'AFP, principalement des Emma dans le territoire de Djougou qui ont fui par dizaines de milliers en Ouganda voisin ou ailleurs en Ituri, notamment son chef-lieu Bunia. En attendant le président Kabila, l'heure est à l'accalmie des tensions, d'après plusieurs sources. L'armée nationale congolaise qui a lancé une offensive après les massacres affirme avoir tué 28 assaillants et perdu 10 hommes. Relations États-Unis-Rwanda, le président Donald Trump suspend les avantages commerciaux sur les vêtements importés du Rwanda. Ces avantages étaient accordés dans le cadre de l'AGOA, la législation américaine qui permet l'entrée en franchise de droit aux États-Unis de produits de certains pays africains. La suspension est une mesure de rétorsion aux barrières douanières sur les vêtements et chaussures recyclés américains adoptés par le Rwanda, Eddie Sango.
Le président Trump estime qu'une suspension de ses avantages plutôt qu'une sortie du Rwanda de l'AGOA pourrait permettre de poursuivre les discussions dans le but de restaurer l'accès au marché rwandais aux produits américains, selon un communiqué du représentant américain du commerce. La décision n'exclut pas le Rwanda de l'AGOA. L'administration Trump a décidé de mener une enquête sur le Rwanda, mais également sur la Tanzanie et l'Ouganda en mars 2017, à la demande de l'Association américaine des textiles d'occasion et recyclés. L'association dénonçait l'imposition des droits de douane sur les exportations américaines de vêtements et chaussures d'occasion. Le Rwanda a interdit toute importation d'habits usagés sur son sol. La Tanzanie et l'Ouganda ne sont pas frappés par la décision parce qu'ils ont pris des mesures pour éliminer les droits de douane prohibitifs.
Au Cameroun, appel de l'avocat camerounais Emmanuel Sim au président Paul Biya pour lui demander d'ordonner l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders de la contestation anglophone. Une requête qui fait suite au nouveau report jeudi du procès à Yaoundé de plusieurs d'entre eux, dont l'animateur Mancho Bibixi. Plus de précisions avec Irénée Herman Ungbo.
L'audience de 8 accusés dont l'un des leaders de la contestation anglophone, Mancho Bibixi, a été ajournée au 13 avril. Dans une affaire parallèle jugée hier au tribunal militaire de Yaoundé, un autre anglophone a été déclaré coupable d'apologie de terrorisme, sécession et hostilité contre la patrie. Sa peine sera prononcée le même jour, annoncée pour l'ouverture de procès de Mancho Bibixi. Maître Emmanuel Sim, avocat des accusés, invite cependant le président Paul Biya à intervenir pour ordonner l'arrêt des poursuites judiciaires engagées contre les anglophones. Maître Sim précise que la crise anglophone est politique et ne peut avoir qu'une solution politique. Selon lui, c'est la seule façon de ramener la paix dans les deux régions anglophones. Rappelons qu'en août 2017, le président Biya avait déjà décrété l'arrêt des poursuites contre certains leaders anglophones arrêtés dans le cadre de la contestation à la fin 2016.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, un incendie d'une rare intensité a détruit hier un grand marché à Nara, localité du nord de la province de Koulikoro, proche de la frontière mauritanienne. La cause du sinistre, un camion-citerne qui ravitaillait une station d'essence située en plein cœur du marché, a pris feu. On ne déplore pas de pertes en vie humaine, mais les dégâts matériels sont considérables. Modibo Keïta, animateur à Radio Danié FM de Nara, nous en dit plus.
Il y a une station d'essence au milieu du marché même de Nara. Et cette station aussi est entourée par des magasins, des boutiques de vente, également des cyber, ainsi que des salons de coiffure. Le marché en totalité a été réduit en cendres, ainsi que des boutiques de vente de pièces, des garages de réparation, des motos. Il y avait aussi des véhicules 207, ainsi que des véhicules 4x4 qui ont été totalement réduits en cendres. Il y a une famille aussi qui est à quelques 40 mètres du marché, qui aussi a été totalement réduite en cendres.
C'est pas quand même un incendie criminel.
Non. C'est pas un incendie criminel. C'est le camion citerne qui était là pour le ravitaillement. D'habitude, ils le font dans la nuit. On a constaté que le ravitaillement a été effectué en pleine journée. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont dit que c'est le feu là qui a occasionné l'incendie. Certains aussi disent que c'est le bouchon du camion citerne qui a touché le ciment et qui a déclenché le feu. Chacun est en train de dire sa version.
Des propos recueillis par Modibo Dembélé. Sierra Leone, la finale de la présidentielle, c'est demain samedi. En face-à-face pour ce second tour, le candidat du parti APC au pouvoir, Samora Camara, et celui du principal parti d'opposition, Julius Maada Bio, arrivés en tête au premier tour avec 43,3% des voix. 3 millions d'électeurs sont attendus dans les bureaux de vote pour choisir le successeur du président Ernest Bai Koroma, qui ne peut pas se représenter après 2 mandats. Les premiers résultats sont attendus la semaine prochaine. En Libye, au moins 8 personnes, dont des civils, ont été tuées et 8 autres blessées dans un attentat suicide hier soir contre un barrage de sécurité dans l'est du pays. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Un kamikaze a fait exploser son véhicule à un barrage tenu par des forces loyales au maréchal Haftar à l'entrée est de la ville d'Ajdabia à l'est de Tripoli. C'est ce qu'a indiqué le général Fawzi Al-Mansouri, un haut responsable local de sécurité. Selon lui, il y a des civils parmi les morts et les blessés. Les victimes civiles étaient de passage au moment de l'attaque qui n'a pas été revendiquée jusqu'ici, a-t-il fait savoir, ajoutant aussi que le véhicule transportait une lourde charge explosive. Il s'agit de la 2e attaque du genre en moins d'un mois dans cette région. Un premier attentat suicide revendiqué par le groupe État islamique avait fait 3 blessés le 9 mars au sud d'Ajdabia. Malgré la perte du fief de Sirte dans le nord du pays, en décembre 2016, les djihadistes restent actifs, notamment dans le centre et le sud de la Libye, pays déchiré par des luttes de pouvoir et miné par une insécurité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011.
Relations entre les États-Unis et la Russie maintenant. Washington laisse planer la menace d'une riposte après la décision de Moscou hier d'expulser 60 diplomates américains et de fermer le consulat des États-Unis à Saint-Pétersbourg en Russie. Des sanctions adoptées en représailles aux mesures équivalentes prises par Washington après l'empoisonnement d'un ex-agent russe en Grande-Bretagne. Plus de détails sur la réaction de la Russie avec Morgan Guiriec.
Ces personnes ont été déclarées persona non grata pour leurs activités incompatibles avec leur statut diplomatique. Elles doivent quitter le territoire russe d'ici le 5 avril 2018, selon les autorités. Ces mesures répondent à l'expulsion par les États-Unis de 60 espions russes et à la fermeture du consulat russe à Seattle dans le cadre de mesures de rétorsion après l'empoisonnement le 4 mars de l'ex-agent russe Sergueï Skripal et de sa fille Yulia sur le sol britannique. Les États-Unis ne sont pas les seuls visés par ces mesures de représailles. Au total, plus de 140 diplomates russes en Europe, en Amérique du Nord, en Ukraine ou en Australie ont été expulsés en soutien à Londres, qui accuse Moscou d'avoir empoisonné l'ex-espion russe.
En Syrie, des centaines de combattants et de civils se pressent de nouveau ce vendredi, pour le 7e jour consécutif, vers les bus destinés à les évacuer de l'ancien bastion rebelle dans la Ghouta orientale, aux portes de la capitale Damas. En une semaine, un total de 31 890 personnes. Des combattants, leurs proches et d'autres civils ont ainsi quitté l'ancienne poche sud de l'enclave rebelle qui était contrôlée par le groupe islamiste Faylaq al-Rahman, selon un décompte de l'agence officielle syrienne Sana. L'évacuation de la zone a débuté le 24 mars à la suite d'un accord entre le groupe insurgé et la Russie, allié indéfectible du régime syrien. Et puis en Turquie, 6 membres des forces de sécurité ont été tués et 7 blessés ce vendredi dans le sud-est, à majorité kurde du pays. 3 gardiens de village et 4 soldats ont par ailleurs été blessés selon le communiqué. les autorités kurdes, les autorités turques attribuent cette attaque au PKK, une organisation qui livre une guerre sans merci sur le sol turc depuis 1984 et est classée terroriste par Ankara, mais aussi Washington et l'Union européenne. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.